18h01 sur Radio Campus Paris, nous sommes le lundi 5 février et c'est toujours l'heure de la relève.
La relève, un lundi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Bonsoir, 30 minutes avec un jeune talent, c'est la promesse de la relève. Ce soir, ils sont deux, donc c'est deux fois plus de talent. On va parler de promotion et de placard connecté. Mes invités sont metteurs en scène et comédiennes. Bonsoir, Comme de Belsize.
Bonsoir.
Bonsoir, Éléonore Jonquier.
Bonsoir.
Vous êtes actrice, on peut vous voir actuellement au théâtre Tristan Bernard dans Mondial Placard, une pièce de Comme de Belsize, comme quoi il y a un lien entre vous deux, où vous interprétez le rôle de Marion. Alors, Mondial Placard, comme son nom l'indique, est une entreprise qui conçoit et fabrique des placards. Et arrive le jour où une femme est promue.
Voilà, et ça va créer un certain nombre de désordres, et notamment en fait, celui qui pensait avoir le poste, qui considérait qu'il était l'héritier légitime, se sent victime d'une grande injustice. Et pour lutter contre cette injustice, il décide de revenir travesti en femme, pour prouver à tout le monde qu'en tant que femme, il aurait été promu, alors qu'en tant qu'homme, il était bloqué. Voilà. Et à partir de ce travestissement, suit une suite de situations qui va mettre un peu le bazar dans l'entreprise Mondial Placard.
Marion ?
Alors,
c'est vous qui êtes promu.
C'est Marion qui est promu, okay. C'est pas moi. Mais bon, c'est tout femme.
C'est le paradoxe du comédien.
Voilà.
C'est pour les classes terminales, c'est... Pardon, allez-y, pardon.
Non, mais tout à fait. Donc c'est Marion qui est promue à ce poste qu'aurait rêvé Laurent. Mais en tout cas, a priori, elle est tout à fait légitime pour avoir ce poste. Elle a toutes les qualités requises. Mais en revanche, elle va essuyer tout un tas de plans foireux, comme elle le dit elle-même, dans une scène où elle craque un peu parce qu'elle n'en peut plus.
Ce qui vous intéresse dans la situation de départ, là je parle à l'auteur et dans ses développements, c'est la question qu'elle pose sur les rapports hommes-femmes, c'est l'entreprise, c'est le pouvoir, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'au départ, vous avez envie d'écrire sur ça ?
Bon, j'ai envie d'écrire là-dessus parce que je fais partie de ma génération, que c'est quelque chose qui traverse, voilà, dont on parle tout le temps, évidemment plus spécialement depuis MeToo, parce que ça a été un moment important, je dirais, dans l'expression politique de ce nouveau féminisme, mais voilà, que ça soit en famille, que ça soit avec mes amis, enfin voilà, c'est quelque chose qui anime très régulièrement les débats, qui fait qu'on, enfin voilà, qui a un espèce de prisme pour observer le réel qui est très très fort. Et moi, c'est pas tellement un propos sur l'entreprise, parce que pour moi, je dirais que l'entreprise c'est une métaphore de la société. Je trouve que c'est intéressant de situer cette question-là dans un endroit où c'est problématique, donc l'entreprise, mais finalement les relations entre mes personnages, on pourrait les retrouver dans une famille, on pourrait les retrouver dans n'importe quel groupement humain, finalement, pas spécialement l'entreprise.
Vous, Marion, c'est aussi Marion, c'est le nom de l'actrice, c'est le nom du personnage. Vous, Éléonore, pardon. Éléonore Jonquier, vous aussi, c'est une question, évidemment, j'imagine plus encore en tant que femme, qui vous intéresse ? Que vous vivez au quotidien ?
Non, en fait, pas du tout. Bah, moi, j'ai travaillé qu'avec des gens bien, donc comme par exemple, donc j'ai pas eu à subir la discrimination, comment dire, ou d'être reléguée à un statut subalterne parce que j'étais une femme. Donc c'est pas quelque chose que moi j'ai vécu, en tout cas dans ma chair ou dans mon expérience au travail. D'ailleurs, ce qui a été intéressant, c'est qu'en 2019, j'ai mis en scène un spectacle qui s'appelait « La vie trépidante » de Brigitte Tornade. Et à chaque fois, on me demandait si c'était parce que voilà, j'étais une femme, que j'avais un positionnement féministe, que je montais cette pièce. Et moi, ce n'était pas une question qui m'avait traversée. En revanche, je pense que simplement parler en tant que femme d'un sujet de femme, bon, bah voilà.
C'est naturel pour vous.
Oui, c'est naturel et tant mieux. Mais je n'ai pas agi, je veux dire, par des convictions féministes. J'avais juste envie de parler d'un sujet qui m'intéressait. Et après, quelle était votre question là,
Alors là, vous savez, moi-même, j'ai oublié. Hein. Je vous demandais si la question, bah, aussi, après, comme c'était quelque chose dont vous parliez quotidiennement, en famille, au théâtre, au travail, comme avec ses amis, comme il vient de le dire.
Oui, on en parle forcément parce qu'on a tous des positions différentes là-dessus. En tout cas, c'est sûr que de jouer, répéter, monter cette pièce, ça nous a amené à discuter de ces sujets. Mais oui, c'est des sujets qui nous agitent. Nous, on est un petit peu, on est des cadras. Donc, on est un peu à mi-parcours entre des positions entre les jeunes et les boomers. Mais oui, voilà, c'est bien sûr que ça nous agite, et bien sûr que mais je dirais que moi, j'ai pas une position particulièrement revendicatrice, en tout cas sur cette question.
Alors, la pièce qui s'appelle, je le rappelle, Mondial Placard, qui est actuellement au Théâtre Tristan Bernard, je crois qu'il y a un tarif pour les étudiants et pour les jeunes. J'ai oublié les jours, je crois que c'est mardi, mercredi, jeudi et
aujourd'hui. Mardi, mercredi à 20h, vendredi à 21h, samedi à 16h et 21h.
Voilà. Alors, c'est une mécanique de théâtre de boulevard. Pour avoir vu deux de vos précédents spectacles, je crois que vous jouiez dans un des deux, peut-être même dans les deux. Moi, j'avais vu Amédée et Soyez-vous-même. Soyez-vous-même, vous étiez dedans.
Oui, j'étais dans les deux, oui.
C'était pas vraiment votre style, le théâtre de boulevard. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre cette forme-là?
Alors, j'ai toujours rêvé d'écrire une vraie comédie.
Et pourquoi? Parce que c'est pour vous,
parce que j'adore en tant que spectateur. Que je crois que... Alors, je considère que... Moi, c'est vraiment une bascule que j'ai faite au moment du Covid. C'est-à-dire que plus le monde me paraît anxiogène, plus je pense qu'il est nécessaire d'aborder les questions importantes avec de la légèreté, de l'humour et du plaisir. Je suis de moins en moins, moi, en tant que spectateur, sensible aux paroles trop descendantes, une manière trop sérieuse d'aborder les sujets. Or, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin qu'on me donne de la matière pour être en mouvement, j'ai besoin qu'on... Voilà. Et ça je le retrouve dans l'humour, dans cette petite distance qui me laisse de la place pour me sentir libre. Et donc ça, là-dessus, j'étais vraiment très, très... Enfin voilà, cette idée d'écrire une vraie comédie. Et cela dit, vous avez vu Amédée, qui est là plus une tragédie. Je suis persuadé que... Ouais. Faire le mouvement de la tragédie vers la comédie, c'est un mouvement assez naturel. Et pour moi, une bonne comédie, il faut qu'elle soit sous-tendue par des enjeux tragiques. Il faut que mes personnages vivent une tragédie, situation après situation, et c'est ça qui fait que la comédie, je dirais, dépasse le stade de l'humour.
Mais quand on se met à écrire une comédie, c'est différent, parce que on est dans le bon mot, c'est pas forcément quelque chose qu'on cherche dans la tragédie. Dans le bon mot au sens classique, enfin, pas au sens de trouver le mot juste, mais vraiment le bon mot qui fait rire.
Oui, punchline.
Vous étiez drôle dans la vie de tous les jours, ou c'était quelque chose qui vous inquiétait? Enfin, j'imagine, ça devait être
angoissant. Ah non, je suis pas du tout drôle.
Ça doit aller répondre ça.
Ça doit être très très angoissant de se dire, est-ce que je vais faire rire?
Oui. En fait, alors c'est vrai que, par exemple, dans la vie, je suis pas du tout un bout en train, je suis pas du tout quelqu'un qui a besoin de faire rire autour de lui pour. Non, mais c'est vrai, il y a des gens. Moi, autour de moi, j'ai des gens qui sont extrêmement drôles, qui arrivent à faire rire les gens autour d'eux, etc. C'est pas du tout mon cas. En revanche,
petit coup d'œil, si je dois acquiescer ou non.
Non, je me demandais si vous étiez drôle.
Non, pas spécialement, mais c'est vrai que c'est juste que dans les comédiens, il y a une espèce d'énergie un peu extériorisée qui fait que c'est vrai qu'on traîne souvent avec beaucoup de, de bout en train, de gens en tout cas qui osent. Voilà, c'est vrai que Côme, il a un rapport plus mesuré à ce qu'il dit, qui pèse, Côme, c'est aussi un metteur en scène, c'est quelqu'un qui a une vision sur les choses, qui réfléchit.
Plus cérébral, donc.
Ouais, plus réfléchi, plus cérébral.
C'est pas un défaut, hein.
Non, c'est pas du tout un défaut.
Non, de toute façon, j'ai pas trop le choix, hein. Je suis comme ça. Mais en revanche, je pense qu'il y avait toujours une part de légèreté, d'humour dans mes pièces. Amédée, que vous avez vu, il y a les scènes qui étaient assez drôles.
Et Soyez-vous-même, c'est évident.
Soyez-vous-même, c'était vraiment une farce. Alors, pas une comédie, c'était plus une farce, parce que c'était assez dur.
Vous étiez dedans, vous? Vous jouiez dans les deux femmes, pardon.
Ouais.
Allez-y. C'est un entretien de recrutement qui dérapait, mais à un niveau paroxystique.
J'étais
amusé à écrire ça. C'était formidable.
C'était un drôle d'objet théâtral. Fait partie de mes fiertés. Mais cela dit, Amédée, les deux, vous avez vu des bons.
Je trouve que la différence, parce qu'effectivement, dans Soyez-vous-même, il y avait déjà... C'est-à-dire... Moi, j'ai l'impression que la différence, on peut faire dans toutes les œuvres de Côme, qui vont de la tragédie à de plus en plus de comédie, c'est la compassion, l'identification qu'on a au personnage. Plus, en fait, on s'identifie, on a de la compassion pour eux, plus on est dans de la tragédie. Et plus, avec les pièces récentes comme Soyez vous-même ou Le bonheur des uns, on regarde les personnages avec plus d'ironie. Donc, on accepte de s'en moquer, on ne vit pas de façon premier degré la tragédie qu'ils vivent. Mais à chaque fois, c'est une tragédie. Mais c'est vrai que entre la différence pour moi d'humour entre Mondial Placard et une pièce comme Soyez vous-même, puisque vous en parlez, c'est qu'avec Soyez vous-même, on frôle la tragédie en permanence. Et en fait, il y avait dans le public des gens qui prenaient vraiment dans le rire, la pièce, et des gens qui étaient glacés. Dans Mondial Placard, c'est une comédie pure. C'est-à-dire que
c'est du boulard, il y a du rythme, il y a aussi le rythme.
C'est écrit de telle sorte qu'on ne puisse pas un seul instant, même si c'est un sujet qui est très intéressant, qui amène à réfléchir, il n'y a pas un moment d'hésitation sur le fait que c'est un positionnement de rire pour le spectateur. Enfin, voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que vous reprenez tous les codes du boulevard, mais vous-même, vous les travestissez, puisqu'on va parler de travestissement juste après, si vous voulez bien. Mais ce n'est pas le boulevard classique, le mari, la femme, l'amant. Et vous le mettez dans un autre cadre, avec d'autres rapports, d'autres enjeux.
Non, mais oui, mais c'est comme si j'avais digéré un certain nombre de formes. C'est-à-dire qu'il y a le travestissement qu'on retrouve chez Marivaux, chez Shakespeare. L'expérience sur l'humanité, ça c'est, enfin voilà, on le retrouve chez Marivaux, on le trouve chez Calderon. Il y a évidemment le boulevard. Alors il y a, par exemple, il y a un placard qui devient une machine un peu folle, et ça c'est vraiment une référence au théâtre de Feydeau. Donc oui.
Oui, parce que dans le boulevard, il y a toujours l'amant dans le placard. Là, le placard, il est intelligent, il est connecté.
Voilà.
C'est ce que vous apportez à l'histoire du boulevard, le placard connecté. C'est une idée géniale d'ailleurs.
Donc oui, mais
on ne dira pas comment vous l'utilisez, mais vous l'utilisez très bien, si je peux me permettre.
L'idée, c'est de reprendre des codes qui sont des codes de la comédie populaire, de les adapter aujourd'hui pour nourrir une réflexion sur un thème qui est vraiment un thème d'aujourd'hui. Parce que moi, j'adore Feydeau, j'adore tout ce théâtre-là, mais il n'empêche que je considère que ces histoires de bonne mœurs, ces histoires de cocu, sont, voilà, malgré tout, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Mais en revanche, la forme est exceptionnelle. La forme, tout est exceptionnel là-dedans. Et donc, de reprendre ces codes-là et de se dire, ça va me servir à interroger mon public sur des questions qui sont vraiment des questions actuelles, là, je trouve que ça pour moi, ça devient intéressant.
Et d'ailleurs, parce que vous disiez l'idée géniale de faire intervenir une machine, là, je laisse la parole à Côme parce qu'il le raconte très bien, mais c'est aussi encore il a repris à son compte de façon moderne un truc qui existe dans les pièces de Feydeau où il y a souvent dans l'intervention de machines.
Mais oui, dans quasiment toutes les pièces de Feydeau, c'est très, très régulier, il y a une machine qui devient folle et qui prend le pouvoir sur c'est le cas par exemple dans La Dame de chez Maxime où il y a un siège qui endort les personnages et donc dès qu'ils s'asseyent dedans ils s'endorment, donc ça fait dérailler les situations.
Un cauchemar pour un animateur radio, ça, si un siège comme ça part dans les yeux.
Voilà, non, mais j'adore cette idée d'aspirer tous les outils que me donne la littérature depuis Shakespeare jusqu'à Feydeau et de me dire que en les aspirant et en les mettant à mon propre goût, et ça donne quelque chose de très contemporain et de très moderne.
Et le travestissement, parce qu'évidemment, il y a du travestissement. Là, dans la pièce, on l'a dit. On l'a dit, on l'a pas dit.
Oui, on l'a dit. Alors, il faut pas tout dire. Sinon, on va gâcher un certain plaisir. Mais le travestissement, évidemment, le travestissement, c'est un outil de comédie génial, parce que c'est le théâtre, parce qu'en fait c'est travestir la parole, c'est en vivant le fantasme d'être quelqu'un d'autre, ce qui est déjà ce que vit l'acteur. L'acteur prend la peau, se met dans la peau de quelqu'un d'autre qui se met dans la peau de quelqu'un d'autre, et en fait c'est du théâtre en live, et c'est vraiment à la source de l'acte de théâtre, et ça, en plus, je dirais, Ça résonne avec mon sujet de manière exceptionnelle.
Et ce qui est génial dans le travestissement, en fait, c'est qu'on prend le public pour plus intelligent, parce que lui, il sait qu'il y a de la travestissement par rapport au personnage. C'est vraiment une situation où c'est généreux vis-à-vis du public.
Bah oui, alors moi, c'est hyper important. Pour moi, j'ai besoin d'avoir un rapport de plaisir avec le spectateur. Il y a un côté gourmand, un côté de « on va s'amuser ». Et c'est par cet amusement, par ce plaisir-là qu'on va se mettre en mouvement intellectuellement. Et vous savez, pour écrire cette pièce, j'ai fait une série d'interviews. J'ai interviewé des femmes d'affaires, des femmes chefs d'entreprise. Et l'idée du travestissement, en fait, elle est venue parce que j'ai interrogé plusieurs générations, des femmes qui avaient plus de 70 ans, qui avaient un positionnement globalement assez marqué, assez... En gros, elle disait, j'ai pas connu le sexisme, j'ai tout fait au mérite, et la génération MeToo, c'est des pleureuses, elles ont rien compris. Voilà, c'est assez cash. Et des femmes de ma génération, la quarantaine, qui disaient, en fait, la génération d'avant n'a pas été pionnière. Et ce qu'elles leur reprochaient, c'était très intéressant, c'est qu'elles ont fait carrière, elles ont fait des très belles carrières, elles ont fait carrière comme des hommes. C'est-à-dire que pour faire carrière, elles ont épousé les codes de la masculinité pour se fondre dans un monde dans lequel elle ne pouvait pas exister en tant que femme. Et cette idée de faire carrière comme un homme versus faire carrière comme une femme, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée du travestissement. Qu'est-ce que c'est que faire carrière comme une femme, comme un homme ? Et c'est vraiment la base du jeu, quand je dois faire comme quelqu'un d'autre.
Éléonore, vous qui vous jouez dans cette comédie, donc, je le rappelle, hein, vous jouez le rôle de Marion, est-ce qu'il y a un plaisir particulier à jouer à un boulevard ? Je ne sais pas si vous en aviez déjà joué avant.
Justement, moi, j'avais joué la dame de chez Maxime.
Ah ben voilà. Dormi sur le siège magique.
Eh ben non, parce que ça avait été coupé. Justement, c'est drôle parce que souvent, c'est problématique de machines qui interviennent. Parce que les pièces de Fedo sont parfois très, très longues. Et souvent, le rapport à la machine, il est sabré. Parce qu'à un moment, le metteur en scène se dit « Ah non, pas ce truc en plus à gérer. Il y a déjà tellement de personnages. » Et en fait, évidemment, ça veut dire quelque chose. Et là, moi, je trouve que c'est très, très intéressant, intelligent, malin, ce qu'a fait Côme de refaire intervenir ce côté. Enfin bon, bref.
On est d'accord. Il va rougir.
Mais évidemment, c'est génial de jouer dans un boulevard parce que de toute façon, c'est génial de faire rire. Parce que c'est comme si quand on joue dans une comédie, à l'inverse d'une tragédie, ou pas forcément une tragédie, mais d'un drame contemporain ou classique, on a immédiatement l'assentiment du public. C'est-à-dire qu'on joue et c'est comme si à chaque fois qu'on entend un rire, c'est comme s'il nous disait « c'est bien ». C'est bien, vas-y, continue. Et donc, c'est comme si ça te valide, en fait.
Par rapport à quand il y a une salle silencieuse où on ne sait pas si c'est parce qu'elle est prise ou...
Alors, en revanche, c'est sûr que quand on joue une comédie et qu'il n'y a
pas
de rire...
Non, je pense c'est par rapport à un spectacle qui n'est pas une comédie, où il y a un silence qu'on...
Alors, le silence, il est évidemment très agréable si on ne joue pas quelque chose qui est censé être drôle, parce qu'on sent les vibrations, on sent le... Mais le rire, c'est... Je ne sais pas comment dire, c'est une adrénaline pour l'acteur. Alors, je ne fais pas du one-man show. Donc, j'imagine même pas ce que doivent vivre les comédiens et comédiennes qui vivent ça, d'être seul sur scène et de faire rire le public, de l'avoir dans sa main. Mais déjà, dans un boulevard, de ressentir que quand on fait quelque chose, ça réagit immédiatement, c'est très, très agréable. Après, effectivement, quand il n'y a pas de réaction, parce que selon la jauge de la salle ou certains soirs, là, il faut justement pas se...
Moi, le soir où j'y étais, ça riait beaucoup, beaucoup,
oui,
beaucoup.
Pour le moment, ça rit beaucoup et on espère que ça va continuer. Mais c'est vrai que plus il y a de monde dans la salle, plus ça provoque ce rire. C'est quand même très communicatif, le rire. Mais et bien sûr, c'est merveilleux de jouer dans un boulevard. Après, ça demande aussi à l'acteur de ne pas se décentrer. C'est-à-dire, en fait, de ne pas tomber dans le cabotinage. Ça peut être la problématique du... C'est-à-dire ouais, que
ça,
comme
c'est
il fait rire...
Le vieil acteur de boulevard.
Non, mais ça, comment dire, c'est quelque chose qui peut arriver à tous les acteurs. C'est-à-dire qu'il sent tellement le public qu'à un moment donné, il se décentre de ce qu'il doit jouer. Ça, c'est quelque chose à... Et puis aussi de rester, évidemment, malgré tout, il y a une rythmique qu'il ne faut pas perdre, elle est hyper importante. Et si on se laisse avoir en faire trop, en fait, quand tu commences à prendre trop de place, enfin.
Oui, c'est prendre la place des autres et.
Tirer la couverture. Enfin, bon, voilà, donc il faut bien sûr être vigilant, mais c'est. Et par rapport à l'histoire du travestissement, ce qui est génial, c'est que c'est comme un nez de clown, c'est-à-dire que. Le personnage, c'est comme si il met un nez de clown qui lui permet de faire des trucs qu'il fait jamais. Mais l'acteur aussi, c'est comme si d'un coup, il s'autorise à faire des trucs qu'il fait pas parce qu'il a mis comme un masque. Donc non, c'est très, très jubilatoire.
Vous avez beaucoup travaillé le rythme, parce qu'on sent que c'est... je ne sais pas si vous leur faites faire un entraînement physique avant, mais on se dit que vous devez être lessivé à la fin de l'heure 40.
Alors ça, lessivé, je ne sais pas. On a beaucoup travaillé sur le rythme, beaucoup travaillé sur le rythme à la fin du travail, bien sûr. Même si justement à un moment on a été tellement dans le rythme, même à la fin je leur dis ok maintenant prenez le temps de jouer. Il faut.
Bon, on a fait les mouvements inverses. On a été beaucoup trop lent et après on a trop serré. Enfin voilà, c'était à un moment donné on a tellement cherché, parce que c'est une particularité de Com en tant que directeur d'acteur. C'est que, et c'est d'autant plus incroyable que pourtant que c'est lui qui a écrit sa propre pièce, c'est qu'une fois qu'il la monte, mais je te laisserai en parler, mais il, c'est comme s'il la redécouvrait, et il nous laisse une liberté, nous les acteurs, les interprètes, vraiment de chercher, de vraiment créer des personnages. Et ça fait que dans le processus de répétition, il y a aussi toujours un moment où on va trop loin. Quand on étire les enjeux, quand on voilà, ça crée presque trop de jeux. Et à un moment donné, il y a Com qui commence à resserrer. Et là, c'est vrai qu'avant la première, on a peut-être eu un moment où c'était trop, c'était presque devenu trop serré. Il fallait au contraire pouvoir assouplir.
Allez-y.
Non, elle dit ça très bien.
Alors, on écoute un peu de musique. So can you give me a little more time for me to make my mind up, and I'll try not to roll a snake eyes. I want to feel your uppercuts, your thorough love you keep telling me you're dreaming of. Oh, because you're out of touch, it's not enough, I'm just the thing you wanna fuck. Oh, I'm craving for sober evenings inside. Hatred's so much fun for you, and I won't know if I don't run. Kick or scream for Novocaine, it's all the same against the mirror in a blaming game. Oh, you're calling names again. You can run and tell all of your friends. Oh, I'm craving for sober evenings inside. Voilà, c'était Balancing Act, A Little More Time, et c'est un extrait de la fraîche liste de Radio Campus Paris.
La Relève sur Radio Campus Paris, 93.9 FM et sur le web.
Voilà, on est toujours avec Com de Belsize et Éléonore Jonquier pour la pièce Mondial Placard, actuellement au théâtre Tristan Bernard à Paris. Est-ce que certains soirs, vu le sujet, vous êtes surpris, gêné par des rires sur certaines répliques où vous ne les attendez pas ? Est-ce que c'est un problème, hein ? On sait que, je ne vais pas citer les grands auteurs, mais Coluche disait que parfois il était gêné. Enfin, non, je ne sais plus ce qu'il disait. Il y avait une histoire. j'ai senti que je m'embarquais dans un truc que j'allais pas tenir. Mais en tout cas, des fois, quand on veut rire d'un sujet, on a parfois des rires qu'on n'aimerait pas avoir.
Non, vraiment là, vraiment pas. Et je comprends pourquoi vous posez la question, mais pour resituer, la pièce, elle met ensemble plein de personnages qui ont des approches par rapport à la question de l'égalité femmes-hommes qui sont très différentes. On a le vieux boomer macho, on a la jeune féministe radicale, et entre les deux, il y a tout un spectre de positionnement par rapport à cette question-là. Et moi, je tiens absolument à tenir une ligne qui ne soit pas une ligne morale. C'est-à-dire que je les mets tous ensemble et je laisse le spectateur totalement libre. Je le mets en mouvement, je le plonge dans les questions, mais je ne lui tiens pas la main en disant « ça serait bien que tu penses ça ». Et donc, évidemment, je me retrouve avec des salles, des gens qui rient, pas forcément pour les mêmes raisons de la même chose, ou alors une partie du public qui rit à un endroit et l'autre partie qui rit à un autre endroit. Ça me donne des indications sur qui est ma salle, mais moi, je m'adresse autant aux boomers qui se sent mis en danger par la révolution féministe qu'à la jeune féministe radicale, et je trouve ça formidable que à l'image de cette entreprise où doivent collaborer ensemble, dans une salle de théâtre, ils se retrouvent ensemble et ils expriment par le rire et par leur écoute leur différence de positionnement. Et je trouve que si on ne se dit pas que le théâtre est un endroit où les gens peuvent arrivent avec leurs différences. De toute façon, moi, c'est vraiment un parcours que j'ai fait. On doit avoir une position d'humilité par rapport au public parce qu'on se rend compte qu'on maîtrise assez peu de choses. Les gens arrivent avec leur sensibilité, leur expérience, leur culture. Et si on commence à choisir son public, moi je pense qu'il vaut mieux fermer les théâtres tout de suite. Voilà. Donc je suis jamais gêné. C'est hyper important. C'est-à-dire que mettre ensemble le vieux boomer et la jeune radicale, les confronter à cette même question.
Ce qui vous intéresse, c'est la réaction
ensemble.
Chimique qui se produit entre eux. Quoi.
Mais oui. Et puis après, ils vont discuter ensemble, ils vont se mettre sur la gueule, mais joyeusement, et ça ne sera pas personnel, ils auront les personnages de la pièce comme transfert pour en parler ou pour s'engueuler, j'en sais rien. Mais au moins, ils auront vécu un truc ensemble. Et moi, je pense que parfois, il y a des gens qui me disent « Oh là, j'ai entendu que ça rit à telle réplique, ça m'énerve. »
Mais j'en pense à certaines, oui.
Oui, mais c'est très bien. Et d'autres qui vont dire « Oh là là, j'ai pas compris pourquoi les gens riaient à cette réplique. » Mais peut-être qu'après, petit à petit, ça va faire un travail qu'ils vont comprendre au fur et à mesure.
Oui, puis c'est surtout que, par exemple, donc, le cas, je pense, dont tu parles, Com, c'est un des personnages qui est la jeune féministe, toute jeune, toute fraîchement arrivée dans cette entreprise. Et en fait, il y a des gens qui peuvent être surpris qu'on rie de ce qu'elle dit parce que certaines personnes pensent que c'est tout à fait intéressant, que c'est tout à fait pertinent de le dire. Mais ce qui est drôle, c'est la confrontation de ce qu'elle dit avec les autres. C'est pas tant, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, ce qui est l'humour, il vient de l'altercation, du fait qu'elle arrive et qu'elle dit ça à des gens qui sont à mille années-lumière. Et s'empêcher de rire parce qu'on se dit, non, mais moi je trouve ça très bien, c'est passer à côté de l'humour de situation aussi.
Tous les deux, vous avez travaillé ensemble sur plusieurs pièces de théâtre. Je vois le temps qui tourne, donc je suis obligé d'avancer. Est-ce que ça a créé quelque chose de particulier de se retrouver régulièrement pour les pièces l'un et l'autre ? Est-ce que ça change la manière dont vous travaillez ? Il y a des choses que vous écrivez pour elle ou vous attendez avec impatience son texte ou vous lui avez dit ça, dis donc tu ne peux pas faire dire ça à une femme ? Éléonore, non, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est la question la plus bête du monde.
Non, mais c'est difficile.
Non, c'est pas ça. C'est pas bête du tout.
Non, c'est sûr que... Alors, une chose, c'est que voilà, ça fait quasiment 20 ans qu'on travaille ensemble, puisqu'on était à l'école Claude Mathieu ensemble. Donc, il y a une confiance. Et Léonore fait partie des gens à qui je fais lire mes textes avant de les présenter. Donc elle a à ce moment-là une liberté sur le texte. Elle peut me dire ce qu'elle pense, etc. Après, en revanche, au moment où c'est les répétitions, je dirais qu'on a une relation. J'ai pas l'impression qu'il y ait différence de traitement entre elle, avec qui on a fait...
travaillé... Si vous arrivez encore à vous surprendre ?
Oui. Bah oui.
Oui, bien sûr.
Ouais. Allez-y, vous vouliez dire quelque
chose. Non, mais juste pour dire qu'effectivement, il n'y a pas de différence de traitement. En revanche, moi, c'est vrai que je me sens complètement en confiance. Je sais qu'il me connaît parfaitement, il sait jusqu'où je peux aller, il connaît entre guillemets ma tessiture. Donc c'est vrai que face à Côme, je me lâche complètement, peut-être sans doute beaucoup plus que si j'étais avec un metteur en scène que je connais pas et où je pourrais me dire là, il me prend pour une folle. Enfin voilà, bref.
Bon, ben merci beaucoup. Je rappelle Côme de Belsize et Éléonore Jonquet. Alors vous êtes l'auteur de Mondial Placard. Éléonore Jonquet, vous êtes Marion dans la pièce Mondial Placard. C'est au théâtre Tristan Bernard à Paris, dans le 9e arrondissement. Si je ne m'abuse, allez-y, un mot.
Voilà, et ben non, juste dire qu'elle partage la scène avec 6 autres comédiens. Benjamin Van Germé, Jean Libert, Ludovic Lelay, Clara Guipon et Gwenaëlle Couzigou et David Talbot. Voilà, et c'est 7 personnes sur scène, ça fait une belle énergie.
Je confirme. Merci beaucoup à vous. Je vois l'heure qui tourne. C'était La Relève préparée, présentée par... Merci à vous, pardon. J'en deviens impoli. Elle était préparée, présentée par Christophe. La réalisation était assurée par Lucas. Vous retrouvez cette émission et toutes les précédentes sur le site de Radio Campus Paris. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Relève. Bonne soirée.